RCF.
9h, 11h, Je pense donc j'agis, avec Melchior Gormand.
Si vous suivez l'actualité, il ne vous a sans doute pas échappé que le rapport annuel de la Cour des comptes est sorti la semaine dernière et qu'il dresse l'état des lieux de l'action publique en faveur de l'adaptation de la France au changement climatique. Et ce n'est pas vraiment brillant. Mais que recouvre concrètement cette notion d'adaptation au changement climatique? Quels en sont les enjeux? Eh bien, on va profiter de la sortie de ce rapport pour faire le point ce matin avec nos invités. Et notez que dans la seconde partie de l'émission, on fera un petit pas de côté à l'occasion de la 25e édition de la semaine du jardinage pour les écoles qui se déroule jusqu'au 23 mars dans toute la France. Quels sont les bienfaits du jardinage à l'école et en quoi c'est une manière d'éduquer les plus jeunes à la nature et donc aux questions écologiques? On en parle à 10h. Soyez les bienvenus en direct pour nous parler d'adaptation au changement climatique. Est-ce que c'est une question qui vous préoccupe, qui a des implications concrètes d'ailleurs dans votre vie? Venez témoigner si vous voyez près de chez vous comment cette adaptation se prépare ou est déjà en cours, ou si au contraire, comme la Cour des comptes, vous constatez un déficit autour du sujet. On vous attend au 04 72 38 20 23 par mail à direct@rcf.fr ou dans le groupe Facebook Je pense donc j'agis.
Je pense, donc j'agis. 04 72 38 20 23.
Et bonjour Anne-Claire Léo.
Bonjour Melchior, bonjour à toutes et à tous.
Et ce matin, on décrypte les enjeux de l'adaptation au changement climatique.
Oui, on peut dire que la manière d'aborder le sujet n'est pas la même aujourd'hui qu'il y a seulement 3 ans et demi quand on a commencé à faire cette émission Je pense donc j'agis. Parce qu'à l'époque, on avait encore tendance à penser que le changement climatique c'était ailleurs dans le monde, loin, dans des pays du sud de la planète, et puis ailleurs dans le temps. C'était les prochaines générations qui seraient touchées. Alors, on se sentait concerné, bien sûr, dans une solidarité humaine avec les hommes, les femmes, les enfants qui subissaient déjà les effets de ce dérèglement provoqué par nous, l'humanité, et aussi avec ceux et celles qui peupleraient la Terre après nous. Mais quand même, c'était loin. Il y avait déjà des effets chez nous, mais globalement, on avait tendance à les lire comme des exceptions. Mais désormais, c'est devenu très concret pour nous. Les vagues de chaleur, les canicules, les pluies diluviennes occasionnant des inondations ravageuses, c'est ici, chez nous. Et nous voyons bien que c'est récurrent et nous savons bien que ce n'est que le début. Car quoi que nous fassions en termes d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre, même si nous arrivions à zéro émission nette en 2040, la température moyenne augmenterait de 1,5 degré par rapport à celle de l'ère pré-industrielle. Et donc, il est clair qu'il va falloir s'adapter, qu'on n'a plus le choix et qu'il va falloir accélérer la cadence. C'est ce que dit le rapport de la Cour des comptes. Mais comment peut-on concrètement s'adapter? C'est le travail de qui? Où en est-on aujourd'hui des actions d'adaptation? Comment accélérer? Et est-ce que ça veut dire que désormais, il faut tout miser sur l'adaptation et oublier le volet atténuation? Ou alors comment articuler les deux? Eh bien, c'est à ces questions qu'on va, pendant une petite heure, essayer d'apporter des éléments de réponse, Melchior.
Avec nos deux invités jusqu'à 10h.
Et d'abord, Françoise Vimeux, bonjour. Vous êtes, alors on vous entend pas pour l'instant, mais j'espère que ça devrait venir. Vous êtes directrice de recherche à l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement. Vous travaillez au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement, situé sur le plateau de Saclay, au sud-ouest de Paris, et puis au laboratoire hydrosciences de Montpellier. Alors, on va retester. Est-ce que vous nous entendez? Bonjour Françoise Vimeux.
Bonjour.
Voilà, c'est parfait. Et puis, j'accueille aussi Jean-François Vigier. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le maire de Bure-sur-Yvette, ça se trouve dans l'Essonne, sud de Paris. Vous êtes aussi vice-président...
À côté du plateau de Saclay.
Voilà, ouais, vous êtes voisins en fait, tous les deux. Oui. C'est le hasard ce matin. Et vous êtes aussi vice-président de l'Association des maires de France, donc avec une vision plus large, oui, sur la manière dont toutes ces collectivités locales que sont les municipalités de tailles diverses s'adaptent au changement climatique.
Merci à tous les deux de nous accompagner dans cette première partie. On va commencer, Anne, par la chronique « Tout est lié ». Et ce matin, nous accueillons Stécie Algrin.
Bonjour Stécie.
Bonjour.
Alors vous avez choisi, pour parler adaptation au changement climatique, de nous raconter des histoires personnelles d'adaptation ce matin.
Il y a quelques années, j'ai voyagé pour la première fois en Angleterre. Je m'en souviens très bien. C'était le cadeau que j'avais offert à mon père pour son anniversaire. 2 jours ensemble pour découvrir Londres, Big Ben et les images encore vives de mes cours d'anglais en tête. La nourriture, nous et une intoxication alimentaire pour moi. Un vrai plaisir. Puis vint le moment de recharger les batteries. Celles de nos corps éreintés, dont les jambes avaient servi de moyen de locomotion principal, et celles des appareils électroniques. Ordinateur, téléphone, tout devait y passer. Les petits trous dans le mur auraient pu être intimidants, m'offrant un visage inconnu. Mais que nenni. En regardant la prise, j'esquissais alors un sourire. Fière de mon organisation, celle-là même qui m'avait conduite à emporter dans ma valise un adaptateur. Nous étions prêts. Prêts à faire face à cette nouvelle normalité. Être seule. Seule dans un 25 mètres carrés, après avoir partagé ses nuits et bien des journées avec une autre. Jonathan, c'est le nom de cet ami qui, après la passion et le lent délitement d'une relation, avait finalement retrouvé le calme assourdissant du célibat. Plus de cris ni de larmes, ne reste que l'écho de la rupture tournant inlassablement dans sa tête. Une porte qui claque. Bien sûr, il avait eu une vie avant elle, avant les « nous » et les « pour toujours ». Ça ne le dérangeait pas d'être seul, avant. De seule issue, la fin de contrat s'était transformée en peine d'emprisonnement dans la mélancolie. Il n'avait pas prévu que ce serait si dur de s'adapter à l'absence d'un être qu'on a aimé aussi fort qu'on a pu le détester. Peut-être ne s'y ferait-il jamais à l'envol de ses possibles avec elle. Ça aurait pu se finir autrement, pour peu qu'ils eussent accepté de s'écouter.
Alors, est-ce que c'est là un conseil avisé pour faire face à la question climatique ?
Au siècle de La Fontaine, les fables éclairaient nos consciences individuelles et collectives. Toujours de mise, ces histoires courtes, aux idées lourdes de sens, sont des phares dans la nuit. Et voilà que les Jonathan et les Stacy se font les lièvres, renards et autres messagers de notre époque. Ils nous apprennent que dans nos vies, comme face aux enjeux du changement climatique, nous avons toujours le choix. Celui de regarder où l'on va pour bien s'outiller, ou de laisser des émotions malsaines aveugler notre discernement. Car si d'un cœur brisé on se remet un jour, quand l'eau vient à manquer et le soleil a tout brûlé, on rêve alors de cette époque où l'on pouvait encore s'adapter. Je vous remercie.
Eh bien, merci à vous, Stacy Algrin, pour cette chronique Tout est lié que vous pourrez réentendre à la fin de cette émission sur rcf.fr. Et je rappelle que vous pouvez réagir également et nous parler d'adaptation au changement climatique par téléphone au 04 72 38 20 23. Et ça nous donne une fois de plus, Anne, beaucoup de matière pour démarrer cette émission.
Oui, et alors regardez comment on s'adapte dans nos vies finalement tout le temps. Est-ce que pour vous, Françoise Vimeux, Jean-François Vigier, ça peut être une clé intéressante quand on parle de changement climatique, Françoise Vimeux ?
Alors, l'adaptation, elle est absolument nécessaire aujourd'hui, hein, et c'est un enjeu absolument colossal, hein, c'est des chantiers colossaux à mettre en place. Donc, je pense que le parallèle avec l'adaptation dans nos vies quotidiennes, il est un peu simple, hein, parce que on a vraiment une montagne devant nous et on est très en retard, hein. Le rapport de la Cour des comptes l'a rappelé, le Haut Conseil pour le climat le rappelle, hein, depuis plusieurs années dans ces rapports successifs. Donc, il faut s'adapter et on n'a pas le choix. Et puis, un autre point dont on reparlera peut-être plus tard, c'est que l'adaptation, elle a des limites dures. C'est-à-dire qu'au-delà d'un certain degré de réchauffement, elle devient complexe, voire impossible sur certains territoires. Et donc ça, c'est vraiment, je dirais, une contrainte très forte qui nous pousse à agir dès maintenant sur l'adaptation et aussi sur le volet atténuation en même temps, en parallèle. Et si l'adaptation peut finalement aider à l'atténuation, on en reparlera aussi sûrement, et eh bien c'est du deux en un qui est très positif.
Jean-François Vigier, vous, est-ce que cette chronique vous a intéressé, et est-ce que le parallèle vous semble utile?
Oui, l'idée de l'adaptation en tant que maire m'amène forcément à m'interroger sur la nécessité de convaincre et d'emmener mes concitoyens, et d'emmener tous nos concitoyens vers la nécessité de modifier en profondeur nos habitudes de vie pour justement faire face à l'urgence climatique. Ce qui nécessite forcément, mais je pense qu'on en reparlera dans le cours de l'émission, que la transition écologique, la transition énergétique fasse l'objet vraiment d'horizontalité. Et ne tombe pas sur les collectivités de façon verticale, car nous, on doit convaincre nos concitoyens, même si déjà beaucoup sont convaincus, mais nous devons convaincre tous nos concitoyens de la nécessité de nous adapter. Ça va forcément changer leur mode de vie quotidienne.
Mais dans ce que vous dites là, j'entends qu'il y a comme un enjeu de vie démocratique et de manière dont le dialogue démocratique et l'articulation entre tous les acteurs est organisé, qui se pose tout le temps, mais peut-être de manière encore plus cruciale sur une question comme ça.
Ah mais j'en suis totalement convaincu. Si vous parlez dans une réunion aimablement de d'urgence climatique et de transition écologique, tout le monde va être d'accord et vous allez passer une très bonne soirée. Dès que vous êtes en réunion publique et que vous indiquez que une action que vous allez mettre en œuvre vise à lutter contre le réchauffement climatique et que ça vient contrevenir aux habitudes quotidiennes de nos concitoyens, là c'est plus la même chose. C'est que vous rentrez dans des discussions qui peuvent parfois être un peu animées, puisque vous allez porter atteinte aux habitudes quotidiennes de nos concitoyens. Et c'est là tout l'enjeu aussi, d'arriver à emmener tout le monde vers un objectif.
Françoise Vimeux, c'est une question qu'on vous a déjà posée à plusieurs reprises dans cette émission, mais c'est en raison de ce que vient de dire Jean-François Vigier que vous dédiez du temps comme ce matin, et j'ai l'impression quand même pas mal de temps dans votre emploi du temps de chercheuse qu'on imagine plutôt à chercher dans son laboratoire. En fait, ce travail de vulgarisation, il vous paraît de plus en plus crucial?
Oui, ce qui me paraît important, c'est de bien transmettre l'état de nos connaissances. Donc, dans l'état de nos connaissances, il y a ce que nous savons et ce que nous ne savons pas. Et ça me paraît important de transmettre le plus simplement possible pour que, en fait, les citoyens, les citoyennes s'emparent d'abord de l'état des lieux, de nos connaissances, comprennent les enjeux, savoir où on va, comprennent aussi qu'ils ont le choix et ce n'est pas le scientifique, en fait, hein, qui est prescriptif. Le scientifique vient donner l'état des lieux, il vient donner aussi des solutions quand on parle d'adaptation. Hein, on a des experts hein, qui travaillent, qui font des études, de la recherche sur comment s'adapter à différents risques, hein, montrer qu'on a le choix. Alors, il y a un large spectre, hein, ça va de ne rien faire jusqu'à faire vite et tout de suite. Hein. Et puis, ça permet, je pense, de prendre des décisions en connaissance de cause. Et ça me semble important et très régulièrement quand je fais des interventions, des conférences, il y a des personnes qui viennent me voir en me disant « Ah, j'avais pas bien compris cet aspect, maintenant je comprends mieux et moi ça me permet aussi de me sentir utile dans cette interface entre la science et la société et je suis peut-être un peu naïve mais je suis persuadée en fait que ça permet d'avoir des choix éclairés par la suite. »
Alors, déjà, depuis le début de l'émission, vous avez employé deux mots, celui d'adaptation, qui est notre sujet du jour, et puis celui d'atténuation. Et c'est vraiment les deux pieds sur lesquels marche la réaction qui doit se faire face au dérèglement climatique. Peut-être, est-ce que vous pouvez, pour commencer, nous expliquer, ça paraît simple, mais quand même, la différence entre les deux et la définition de chacun des deux?
Alors, l'adaptation, elle a une définition qui a évolué hein, au fil des années, au fil des rapports du GIEC, au fil des recherches. Je dirais qu'aujourd'hui, l'adaptation, c'est ajuster, c'est transformer notre système au sens large du mot pour faire face aux dommages potentiels qui vont être créés par le changement climatique. Hein, la France est un pays où on voit déjà les impacts du changement climatique et tous les territoires sont concernés. Et donc, il y a l'idée de réduire le risque. Vous savez que le risque, c'est la combinaison de l'aléa climatique, de l'exposition et de la vulnérabilité. Et s'adapter, c'est réduire notre exposition, c'est réduire notre vulnérabilité à des risques différents. Hein. Ça peut être des risques dus aux vagues de chaleur, des risques d'inondation, des risques d'incendie, etc. Et puis, une notion qui a émergé assez récemment dans l'adaptation, c'est de tirer parti des opportunités, d'avoir des co-bénéfices, c'est-à-dire s'adapter au changement climatique, mais remplir par exemple des objectifs du développement durable qui ont à faire avec la préservation de la biodiversité aquatique ou terrestre, ou qui ont à faire avec notre santé, notre bien-être, ou même la réduction des inégalités. Donc ça, c'est pour la partie adaptation. La partie atténuation, je dirais, c'est beaucoup plus simple à comprendre, c'est très intuitif. Nous devons limiter le réchauffement climatique parce que nous allons au-devant de dommages, en particulier hein, dans des pays du Sud, qui ne seront pas gérable, donc des dommages aux sociétés humaines et aux écosystèmes. Et je dirais que ces dommages sont quasiment proportionnels au degré de réchauffement. Donc notre enjeu au cours du 21e siècle, c'est de stabiliser le réchauffement à 1,5 degré par rapport à la deuxième partie du 19e siècle. Et si on ne peut pas 1,5, ça sera 1,6, 1,7, 1,8, voire 2 degrés. Il y a une limite à 2 degrés. Pourquoi? Parce que l'adaptation devient hyper difficile dans certains secteurs et dans certains territoires si on dépasse ce degré de réchauffement au niveau global, ce qui se traduit en France par un réchauffement de 3 degrés.
Jean-François Vigier, vous, dans votre quotidien d'élu, à partir de quand cette notion d'adaptation arrive-t-elle, en fait ?
Vous voulez dire depuis combien de temps nous travaillons à l'adaptation dans nos communes ?
Oui, à partir de quand la question s'est posée vraiment et il a fallu la prendre en charge et y répondre ?
Écoutez, d'abord, il y a une vingtaine d'années déjà, il y a des communes qui faisaient ce qu'on appelait des agendas 21, qui étaient des programmes pluriannuels tournés vers l'environnement. Donc c'était un peu les ancêtres des politiques d'adaptation que nous faisons aujourd'hui. Si je reviens en arrière, je suis moi élu maire depuis 2008, et c'est en 2020, dans mon programme, que j'ai proposé la réalisation d'assises de la transition, de façon à essayer de décider avec nos concitoyens les pistes à mettre en œuvre, les actions à réaliser pour justement faire une politique d'adaptation globale dans ma commune. Et aujourd'hui, je dirais que celle-ci se décline à la fois par des actions quotidiennes qui essaient qu'on essaie de réaliser avec des habitants, qui peuvent d'ailleurs souvent être des actions assez conviviales. Et puis, ça passe aussi et surtout par des actions de plus grande ampleur dans le temps et sur le plan financier, qui sont, par exemple, la rénovation énergétique de nos bâtiments publics.
Et vous êtes sur RCF ce matin, vous l'entendez, on parle d'adaptation au changement climatique avec nos deux invités et bien sûr avec vos témoignages. Est-ce que c'est une question qui vous préoccupe, qui a des implications concrètes dans votre vie ? Venez témoigner si vous voyez près de chez vous comment cette adaptation se prépare ou est déjà en cours, ou si au contraire, comme la Cour des comptes, vous constatez un déficit autour de l'adaptation au changement climatique. Vous témoignez au 04 72 38 20 23 ou par mail à direct@rcf.fr.
Je pense, donc j'agis. Avec Melchior Gormand et Anne Kerléo, une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
Et avec nos deux invités jusqu'à 10h, Jean-François Vigier, je rappelle que vous êtes le maire de Bure-sur-Yvette dans l'Essonne, au sud de Paris, et Françoise Vimeux, directrice de recherche à l'IRD, l'Institut de Recherche pour le Développement.
Puisqu'on fait cette émission à l'occasion de la sortie du rapport la semaine dernière, donc de la Cour des comptes, pour vous, de quoi ça témoigne le fait que la Cour des comptes ait choisi cette année de se focaliser sur cette thématique de l'adaptation au changement climatique, Jean-François Vigier ?
D'un côté, ça témoigne d'abord et ça confirme le fait que ce sujet est hissé aujourd'hui au rang de grande cause nationale. Et si j'en crois les discours des différentes autorités, on sent bien qu'il y a une volonté aujourd'hui de favoriser la réalisation des politiques publiques à l'aune de l'urgence climatique, et d'essayer donc de décliner toutes les actions au regard de cette urgence. Et il ne me paraît pas anormal que la Cour des comptes se penche sur la question et axe son rapport sur ce phénomène, étant donné que la réalisation des politiques d'adaptation, puisqu'on est bien sur des politiques d'adaptation, nécessite la réactivité et la mise en œuvre de tous les niveaux d'action de l'État, que ce soit au niveau du gouvernement, des différentes administrations concentrées et déconcentrées dans les territoires, et puis bien sûr des collectivités locales, régions, départements, intercommunalités et communes.
Françoise Vimeux, pour vous, le fait que la Cour des comptes se saisisse de cette question-là, ça va aider à faire avancer les choses ?
Alors, je pense que peut-être on peut rappeler le contexte. Hein. On a le troisième plan des politiques nationales d'adaptation au changement climatique qui va être révélé courant de l'été, qui est actuellement en consultation. Donc, j'imagine que la Cour des comptes réalise ce rapport particulièrement fourni et précis. Hein. On en reparlera peut-être en amont hein, pour vraiment insister sur l'urgence et sur le fait que nous sommes en retard et que aujourd'hui, l'organisation, la planification, hein, c'est un mot à la mode, n'est pas à la hauteur des enjeux et que cette planification, elle est absolument nécessaire parce que on croise un ensemble de secteurs absolument incroyables. Il y a, quand on regarde tous les secteurs qui sont abordés dans ce rapport, on voit vraiment les chantiers colossaux. Donc, on croise ces secteurs avec tous les territoires qui ont chacun leurs particularités, qui vont devoir s'adapter à des risques qui sont différents, à la fois en termes d'amplitude, en termes de temporalité. Et donc, je pense que ce rapport vient aussi nous expliquer l'absolue nécessité d'avoir une planification au niveau de l'État.
Alors justement, parlons concret, parce que je le disais en introduction, jusqu'à une période assez récente, on avait le sentiment, mine de rien, que le changement climatique et ses effets, en tout cas concrets, c'était loin de chez nous, c'était plutôt dans les pays du Sud. Aujourd'hui, c'est chez nous. Sur votre territoire, par exemple, Jean-François Vigier, est-ce que ils sont observables, ces effets? Et si oui, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples?
Quels effets?
Les effets du changement climatique déjà à l'œuvre aujourd'hui?
Oui, je pense que l'Île-de-France, le sud de l'Île-de-France, n'est pas à l'abri des effets du réchauffement climatique. On sent bien les vagues de chaleur l'été qui restent plus longtemps. On sent aussi des phénomènes pluviométriques. Et on vient d'en vivre un d'ailleurs, il y a une quinzaine de jours, qui ont beaucoup plus de conséquences sur notre vie quotidienne. En plus, Bures-sur-Yvette et toutes les villes en aval et en amont sont des territoires qui sont déjà très 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 sensibles aux phénomènes d'inondation. Et on a eu souvent affaire à des débordements de nos rivières qui ont entraîné l'inondation de nos quartiers. Donc oui, on le voit puisque notamment les inondations sont de plus en plus fréquentes et les périodes de canicule sont aussi de moins en moins espacées.
Alors peut-être si on s'arrête un peu à ce que dit ce rapport, alors il fait 725 pages, hein, donc pour aller le lire c'est peut-être un peu compliqué, mais sur le site de la Cour des comptes on trouve une synthèse à laquelle les auditeurs et les auditrices peuvent accéder, qui est bien faite. Le rapport parle de l'ampleur des progrès à réaliser. Françoise Vimeux, comment vous recevez cette expression et qu'est-ce qu'elle raconte?
Oui, alors c'est pas surprenant en fait lorsque le rapport parle de l'ampleur des progrès à faire. Je pense qu'il parle des études et de la recherche que nous avons encore à mener pour l'adaptation. On sait que la recherche sur l'adaptation, d'un point de vue global, elle est très inégale. Elle est beaucoup plus avancée dans les pays du Nord que dans les pays du Sud. Mais même dans les pays du Nord, on a encore beaucoup de questions sur quelle est la meilleure solution pour s'adapter. Alors, on peut prendre des exemples. Hein. C'est les villes face aux vagues de chaleur, c'est toutes nos régions côtières face à l'élévation graduelle du niveau des mers. Et puis aussi, on doit détecter ce qu'on appelle les mal-adaptations. Ce sont des adaptations qui, intuitivement, nous semblent des adaptations de bon sens, mais qui finalement vont aggraver la situation. Le meilleur exemple étant la climatisation, le climatiseur que l'on va acheter lors d'une vague de chaleur qui va en fait participer à renforcer cet effet d'îlot de chaleur dans les villes en rejetant de la chaleur. Donc le rapport de la Cour des comptes vient pointer en fait ces manques que nous avons encore sur la mise en œuvre de l'adaptation différenciée d'un territoire à l'autre. Alors on va d'un secteur à l'autre, pardon.
On va se pencher sur différents secteurs et voir concrètement comment les actions d'adaptation sont engagées. Mais si vous deviez, chacun d'un mot, parce qu'après il va falloir faire la pause, nous dire qu'est-ce qui vous frappe le plus dans ce rapport, Jean-François Vigier, qu'est-ce que vous diriez?
Ce qui me frappe le plus, et là où j'ai Je fais preuve de réserve sur ce rapport. Bon, d'abord, il est, disons-le, il est très bien fait, il est très bien construit. Là où je dis il y a une alerte à faire, c'est sur l'excès de planification. Encore une fois, nous avons besoin, toutes les politiques que nous allons devoir mener et tous les efforts que nous allons devoir faire, il faudra amener les citoyens avec nous. C'est absolument indispensable. Et c'est pour ça que le rôle des chercheurs et des climatologues comme Madame qui est présente est indispensable effectivement pour nous rappeler sans arrêt l'état de la situation et l'urgence à agir. Mais il faut aussi la liberté, laisser la liberté aux territoires et aux collectivités locales pour mettre en œuvre. Il doit y avoir forcément une sorte de planification au niveau national, mais qui ne descende pas sur les territoires de façon trop verticale, car il nous faudra aussi une liberté à agir et à mettre en œuvre toutes les politiques.
Et Françoise Vimeux, on vous fait intervenir juste après la pause et vous continuez de réagir, de participer à cette émission au 04 72 38 20 23 pour nous parler d'adaptation au changement climatique. Vous pouvez également réagir dans notre groupe Facebook. Je pense donc j'agis. À tout de suite.
Je pense donc j'agis. Avec Melchior Gormand et Anne Kerléo, une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
9h30 dans Je pense donc j'agis. Le rapport annuel de la Cour des comptes est sorti la semaine dernière et il dresse l'état des lieux de l'action publique en faveur de l'adaptation de la France au changement climatique et ce n'est pas vraiment brillant. Alors c'est l'occasion jusqu'à 10h de parler de cette notion d'adaptation au changement climatique. Quels en sont les enjeux? On en parle avec nos deux invités. Jean-François Vigier, je rappelle que vous êtes le vice-président de l'Association des maires de France et donc le maire de Bure-sur-Yvette dans l'Essonne. Et Françoise Vimeux, vous êtes directrice de recherche à l'IRD, l'Institut de Recherche pour le Développement. Alors on vous a posé la question, Jean-François, il y a quelques instants. Qu'est-ce qui vous a marqué, vous, Françoise Vimeux, dans ce rapport?
Alors peut-être dire que mon premier sentiment, ça n'a pas été la surprise en fait. Hein. Je n'ai pas été surprise de voir les conclusions majeures de ce rapport sur notre retard et l'ampleur des chantiers. Ce qui m'a peut-être inquiétée, c'est que finalement ce rapport ne fait aucune prévision sur les coûts. De l'adaptation, hein, sur le financement qui va être nécessaire pour l'adaptation. Il renvoie à des précédents rapports, hein, comme le rapport de Jean Pisani et de Selma Mahfouz, avec des estimations qui sont, enfin, qui paraissent énormes, hein, qui sont quand même de plusieurs milliards d'euros par an. Et ce qui est peut-être inquiétant, c'est que finalement, ce qui est dit, c'est que les prévisions de coûts sont difficiles tant on ne sait pas quelles vont être les voies choisies, les voies d'adaptation choisies dans les différents secteurs. Ça montre à quel point on est en retard sur la mise en œuvre de cette adaptation. Et c'est finalement, sur ces 725 pages, ce qui n'a pas été vraiment précisé, qui m'a peut-être le plus marqué.
Comment vous réagissez à ça, Jean-François Vigier? J'imagine que ça vous parle, cette question des moyens.
Ah ben, alors là, je pense qu'on aborde vraiment le sujet. Et Madame a raison de soulever ce point sur lequel la Cour des comptes n'apporte aucune question. Plutôt que de surplanifier, il faut trouver les moyens du financement. Et si vous me laissez 2-3 minutes, je vais essayer de vous donner le point de vue d'un élu local. L'Institut de l'économie pour le climat a chiffré à 12 milliards d'euros pendant 10 ans les financements nécessaires pour rénover énergétiquement les bâtiments publics. Donc 12 milliards 2020-2030, ça fait 120 milliards. Et on sait que sur les écoles, il y a à peu près 40 milliards à dépenser et à financer. On est dans le cas, on le disait, et on est tous d'accord, d'une urgence nationale. C'est-à-dire que pour la première fois, pour des maires, pour des présidents de départements, de régions, La notion, cette notion de l'urgence sur l'ensemble des politiques publiques à mener, elle se présente devant nous. On a déjà eu des urgences, le faux plafond qui tombe dans le restaurant scolaire, le bout de route qui s'effondre, qu'il faut réparer, mais pas à ce niveau-là d'action publique et d'intervention publique. Donc, l'Institut de l'économie pour le climat nous dit, juste après, en 2022, les collectivités locales financées à hauteur de 5,5 milliards. Donc on n'est même pas à la moitié des 12 milliards. Et pourquoi on n'est pas à la moitié des 12 milliards? Et c'est là que est la véritable question et se pose le problème. Tout simplement parce que nous, les collectivités locales, et je le dis au président de la Cour des comptes s'il nous écoute ce matin, nous votons des budgets en équilibre. C'est-à-dire que quand nous avons essayé de contenir nos dépenses de fonctionnement, investir et solliciter l'endettement, eh bien, nous avons, et c'est une règle, nous ne pouvons pas dépasser une capacité de désendettement au-delà de 13, 14, 15 ans. Si nous dépassons ces années-là, c'est-à-dire si nous montons le niveau de l'investissement et donc que nous sollicitons l'endettement, ben, le gendarme de la préfecture siffle l'arrêt du match, vient nous voir dans nos mairies et nous dit « vous dépensez trop ». Donc, si on ne met pas en place une dette verte, et pardonnez-moi de la simplification, c'est une dette consacrée à toutes les dépenses de transition écologique et énergétique, c'est-à-dire qui nous permettent peut-être de nous endetter sur 20, 30, 40 ans, puisqu'on est sur un enjeu d'urgence nationale. On ne pourra pas financer dans les délais qui sont demandés, dans ce cadre de l'urgence, tous les investissements que nous avons à réaliser. Et puis, je vous pose une autre question. Et franchement, il faut que tous qu'on se pose cette question. S'il y a une grande cause nationale et une urgence à agir, comment se fait-il qu'aujourd'hui, les seuls habitants dans nos villes qui payent une fiscalité générale sont les propriétaires? Voilà, ça c'est une vraie question, parce que depuis la suppression de la taxe d'habitation, seuls les propriétaires participent aux politiques publiques menées par une collectivité locale par la taxe foncière. Moi, je pose la question, si on veut qu'il y ait une grande cause nationale et qu'il y ait une réponse apportée, il va falloir quand même que tout le monde participe au financement de cette grande cause.
Est-ce que ça pose pas aussi la question de l'articulation? Enfin, quand vous parlez de dette verte, ça serait un endettement de vos communes pour financer. Mais est-ce que ça pose pas aussi la question de la participation de l'État et comment s'articule les financements?
En fait, qu'on soit très clair, 12 milliards par an. On a des aides et heureusement que les régions, les départements, les agglomérations et l'État sont là pour nous aider. Mais les aides que nous pouvons percevoir pour nos financements ne peuvent pas nous amener à réaliser les travaux dans l'urgence qui nous est demandé de le faire. Donc forcément, il nous faut des capacités supplémentaires à investir. Moi, regardez, ma commune, 10 000 habitants. Une bonne année, j'ai 3,5 millions, 4 millions d'euros à investir. Ça fait 2 ans que je végétalise mes cours d'école. Végétalisation d'une cour d'école, c'est 350 000 euros minimum. La rénovation d'un bâtiment public, la rénovation énergétique par l'extérieur d'un bâtiment public d'un de mes groupes scolaires, c'est 1 million d'euros. Ah, j'ai déjà fait 1,5 million. Plus la rénovation de l'éclairage public avec des LED. Plus le plan vélo. Voilà, déjà, j'ai fait plus de la moitié de la capacité. Et derrière tout ça, il faut que je fasse les travaux d'entretien, il faut que je refasse des routes, il faut que j'en fasse... On ne pourra pas y arriver. On ne pourra pas y arriver. Alors si, en 30 ans. Donc, il faut vraiment qu'on se pose la question. Et là, je dis à la Cour des comptes, c'est bien, très bien. Planifier, surplanifier, mais il faut qu'on se pose la question du financement. Et c'est tout un pays qui doit aller vers le financement. Alors oui, ça va changer les choses. Peut-être que ça va avoir des conséquences sur les finances publiques, mais il faut quand même maintenant se mettre sérieusement à y travailler.
Alors justement, vous l'avez dit, Françoise Vimeux, les domaines, les secteurs dans lesquels il faut s'adapter sont très très nombreux. On va pas pouvoir les aborder tous dans le temps qui nous reste, mais pour vous, lequel paraît majeur? La question de la santé arrive très très vite et très fort, je crois, dans le rapport.
Oui, alors vous me demandez de choisir, oui. C'est compliqué. Je crois qu'on peut rappeler qu'on a quatre grands risques qui ont été identifiés pour l'Europe et donc ça concerne la France. C'est d'abord un risque qui est lié aux vagues de chaleur, à la fois pour les sociétés humaines et les écosystèmes. C'est un risque sur les rendements agricoles à cause des températures extrêmes et puis souvent couplé à des déficits de pluie, à des sécheresses. On a des risques de pénurie d'eau, en particulier dans le sud de la France, hein, et la situation aujourd'hui de l'état des sols sur le pourtour méditerranéen est encore une fois particulièrement exceptionnelle et donc inquiétante. Et puis on a des risques d'inondation. Alors les risques d'inondation, c'est des risques évidemment qui sont entraînés par des excès de pluie qui font déborder les cours d'eau, mais c'est aussi toutes les submersions marines et nos territoires côtiers qui sont concernés. Alors si là-dedans je dois choisir, je dirais qu'il y a peut-être deux chantiers principaux. Le premier, c'est la rénovation thermique des bâtiments. Pourquoi ? Parce que d'abord, ça satisfait à l'adaptation, à notre confort et notre bien-être d'été, hein, avec aussi des protections. C'est ce que dit ce rapport, hein, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, ma prime rénove, elle ne tient pas compte des protections du soleil l'été, comme les stores ou les brise-soleil. Et puis, ça permet aussi l'hiver de faire des économies de chauffage. Et donc là, on marche sur l'aspect atténuation. Donc là, la rénovation thermique des bâtiments, c'est vraiment gagnant-gagnant. Et puis c'est un chantier tellement énorme, et ça a été dit, qu'il faut s'en emparer dès maintenant.
Mais justement, peut-être faire réagir, avant que vous poursuiviez, Jean-François Vigier, là-dessus, dans votre commune par exemple, mais plus globalement à l'échelle des communes en France, on en est où dans la rénovation ? Alors vous, ce qui vous incombe, c'est plutôt la rénovation des bâtiments publics, mais en même temps, vous avez une vision, j'imagine, sur ce qui se fait en termes de rénovation aussi des logements.
Les rénovations de logements relèvent plutôt des copropriétés ou des bailleurs sociaux. Évidemment, nous les encourageons dans nos communes. C'est-à-dire que moi, je n'arrête pas de demander à mes bailleurs sociaux de rénover énergétiquement leurs résidences. C'est évident. Sur les bâtiments communaux, je vous ai expliqué, on fait notre part, mais avec les moyens que nous avons. Et puis, il y a tous nos habitants, les propriétaires de maisons. Et là, j'alerte sur un autre problème, qui est la distorsion de langage de l'État au niveau national et au niveau local. Vous voyez, par exemple, nous, on encourage évidemment nos habitants à rénover énergétiquement leur pavillon et à faire des économies d'énergie. Donc, on reçoit depuis un an, dans mes services, les premiers dossiers de rénovation énergétique par l'extérieur, et des postes de panneaux photovoltaïques. Eh bien, il y a des services de l'État dans le département, les architectes des bâtiments de France, qui émettent des avis défavorables, parce qu'ils estiment que ça peut porter atteinte au site et à l'environnement. Donc là, moi, j'alerte le préfet, et j'ai eu l'occasion de le dire aussi lors de réunions au ministère, lorsque j'y représente l'Association des maires de France et David Lisnard, notre président, c'est que l'État doit absolument parler d'une seule voix dans les territoires. On peut pas avoir à la fois un État national qui dit il y a une urgence climatique, il faut agir, et puis le représentant du ministère de la Culture qui estime que une rénovation énergétique par l'extérieur, c'est pas assez joli, ça s'intègre mal dans l'environnement d'une commune, ainsi que les panneaux photovoltaïques. Donc voyez, il faut vraiment que ce soit tout un pays qui avance dans la même direction.
Françoise Vimeux, je vous ai interrompu, vous alliez, je pense, évoquer le second chantier qui vous paraissait particulièrement prioritaire, même si tout est important.
Oui, je pense que on a un vrai besoin d'adapter le secteur de l'agriculture. D'abord parce que l'adaptation de ce secteur va prendre du temps et qu'on est aussi en retard. Et puis on a des solutions, hein. C'est peut-être ça qu'il faut aussi rappeler, c'est que pour chacun des secteurs, on a des solutions. Donc pour l'agriculture, c'est bien sûr diversifier ses cultures. Il y a des techniques d'agroforesterie. On sait qu'un sol en bonne santé permet de retenir l'eau un peu plus longtemps, voire une semaine, 10 jours, hein, ce qui est particulièrement important quand on a tant la pluie. Et ça, à mon avis, c'est un point essentiel parce que on sait que sur notre territoire français, pendant l'été, on va avoir des déficits de pluie importants. Donc ça va entraîner une sécheresse des sols qui va être aggravée par des vagues de chaleur qui vont accentuer les phénomènes d'évaporation et de transpiration de la végétation. Et je crois que là, on n'en a pas encore jusqu'à présent parlé, mais ce secteur est déjà particulièrement touché, va l'être de plus en plus, et son adaptation va prendre énormément de temps.
Mais alors là, on se heurte, on en parlait déjà en début d'émission, à la question du consentement de la population en général, mais en l'occurrence là, de la population principalement concernée, qui est la catégorie des agriculteurs, et on a bien vu à l'occasion du mouvement récent, les tensions que ces questions peuvent susciter. Alors, comment on avance sur cette question-là? Parce que ça se décrète pas.
Oui, alors moi, je suis pas sociologue. Je ne suis que climatologue. Mais ce qui est certain, et ça a été dit, on va pas pouvoir aller très loin sans embarquer avec nous les personnes concernées. Donc ça peut être monsieur, madame, tout le monde. Ça va être les travailleurs du secteur agricole. Et ça, je pense qu'il faut aussi avoir des objectifs clairs, des trajectoires, mettre en avant les co-bénéfices d'une adaptation, expliquer que le coût de l'inadaptation est beaucoup plus élevé que le coût de l'adaptation, qui est déjà lui-même, hein, ça a été rappelé et dit, particulièrement élevé. Et puis après, il y a aussi un choix démocratique, c'est-à-dire que ce n'est pas aux climatologues ou aux sociologues de dire à quel point nous devons nous adapter, mais en revanche, il faut bien être conscient des risques grandissants dans certains secteurs et ne pas s'étonner à chaque fois que l'on a des impacts délétères de ce changement climatique sur nos territoires. Et là, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment une prise de conscience de quel va être l'impact sur mon territoire du changement climatique et comment dans ma vie quotidienne je vais être affectée.
9h45 sur RCF, on continue d'évoquer l'adaptation au changement climatique avec vos témoignages, vos réactions. Est-ce que vous vous sentez directement concerné? Est-ce que vous avez l'impression que ça se prépare finalement là où vous habitez ou proche de chez vous? Ou alors au contraire, comme le dit un peu la Cour des comptes, si vous constatez un déficit vraiment autour de cette adaptation, venez témoigner au 04 72 38 20 23 ou par mail à l'adresse direct@rcf.fr.
Je pense, donc j'agis. Avec Melchior Gormand et Anne Kerléo, une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
Et toujours avec nos deux invités jusqu'à 10h, Jean-François Vigier, le maire de Bure-sur-Yvette, c'est dans l'Essonne, et Françoise Vimeux, directrice de recherche à l'IRD, l'Institut de Recherche pour le Développement.
Jean-François Vigier, comment vous réagissez à ce que disait à l'instant Françoise Vimeux sur le fait que dans les territoires, les populations ne sont pas suffisamment conscientes de l'ampleur de ce qui nous attend? Enfin, en gros, c'était ça. Est-ce que vous avez ce sentiment-là?
Alors, mon territoire est un peu particulier parce que, effectivement, comme je vous le disais au début, je suis juste en dessous du plateau de Saclay et j'ai la faculté des sciences de Bure-Orsay qui est sur ma commune en grande partie. Et les gens qui habitent sur ma commune, ce sont des chercheurs, ce sont des enseignants, ce sont des cadres. Donc, le débat ici, il a peut-être une nature différente de ce qu'il peut avoir dans d'autres territoires, bien entendu. Mais d'un point de vue national, oui, il faut effectivement que non seulement les spécialistes comme Madame portent un message, scientifique, pour nous alerter, et nous aussi on doit relayer un message, et on doit dire à nos concitoyens, en tant qu'élus locaux, qu'il faut maintenant agir, et il faut agir de façon très urgente. Maintenant, encore une fois, comme je le disais au début de cette émission, le discours se heurte parfois aux habitudes quotidiennes et aux changements de vie quotidienne de nos concitoyens. Si par exemple, vous faites un plan vélo dans une commune, vous êtes en réunion publique avec ceux qui portent ce plan vélo, tout se passe très bien. Dès que vous faites la première réunion publique avec les habitants d'une rue dans laquelle vous allez mettre une voie cyclable et que vous allez supprimer du stationnement en voirie, là, l'urgence climatique se heurte automatiquement au confort de vie quotidienne de nos concitoyens. Et le message de la transition et de l'urgence climatique, je peux vous dire, c'est très compliqué de le faire passer dans ce type de réunion. Donc voilà, il faut après fixer des objectifs essayer d'avancer, mais comme nous, en fait, les maires, vous savez, et David Lisnard, notre président, le dit souvent, on est un peu les artisans de la discussion quotidienne et de la concertation. Ben, dès lors qu'on discute avec tout le monde, on essaie d'entendre aussi tous les arguments. Et c'est là que la situation devient parfois un peu compliquée.
J'aimerais qu'on commence. Pardon, je me perds puisque je parlais avec Anne en off pour continuer l'émission. Christine nous a rejoint. Voilà, au 04 72 38 20 23. Bonjour Christine.
Bonjour.
On vous écoute.
Bonjour à tous.
Allez-y. Allô Christine, vous êtes à l'antenne.
Oui. Bonjour à tous. Écoutez, je voulais dire que j'ai entendu il y a pas longtemps Samuel Bonvoisin qui a animé une conférence en Meuse. Une conférence qui s'appelle « Et si on cultivait l'eau ?» Et il nous a parlé d'hydrologie régénérative, d'agroforestation, foresterie aussi, ce que nous a dit la personne tout à l'heure. Mmh. Et il expliquait qu'il faut régénérer le cycle de l'eau par l'aménagement du territoire, ce que vous avez dit aussi, et ça peut se faire et dans les campagnes et dans les villes. Quand on détourne les gouttières ou qu'on met des lieux végétalisés dans les villes, tout ça, c'est bon. Et pour les campagnes, par rapport aux agriculteurs, reméandrer les cours d'eau, faire des baissières, des haies, tout ça, ce qu'on sait, c'est vrai, mais c'est vraiment, il insistait pour dire que c'est nos paysages, il faut que nos paysages soient efficaces pour alimenter le cycle de l'eau. Donc, adaptation, oui, mais attention, comme vous l'avez dit, parce que si on dit, les agriculteurs doivent mettre du sorgho, ben non, c'est une mauvaise bonne idée, parce que il y a moins d'évapotranspiration et on fait pire que mieux, on tue encore plus les sols.
De quoi,
donc, il faut vraiment refaire attention à nos paysages, et puis, comme le disait le maire, c'est vrai, laisser de la marge de manœuvre localement pour que des territoires puissent revoir un peu tout ça.
Eh bien, merci beaucoup.
Les paysages et les villes. Voilà.
Merci Christine pour votre appel ce matin dans Je pense donc j'agis face à la crise de l'eau, l'idée de l'hydrologie régénérative. Françoise Vimeux, est-ce que vous connaissez cette notion?
Alors en fait, sur l'eau, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le cycle de l'eau, il est perturbé par le changement climatique. Et que la question du cycle de l'eau, elle va devoir se régler vraiment au niveau local, au niveau des territoires, et chaque territoire va être confronté à une problématique différente. Pour ce qui est de l'agriculture, je l'ai dit tout à l'heure, on va devoir faire face à des sécheresses de plus en plus intenses, de plus en plus longues. On voit déjà depuis les années 60 que on a deux fois plus de sécheresses qu'auparavant, et surtout que la surface du territoire touché est beaucoup plus importante. Donc il y a un ensemble de solutions qui sont déclinées. Certaines solutions vont pouvoir répondre à ce problème sur certains territoires et pas sur d'autres. Donc là, il faut être extrêmement vigilant. Ça me fait penser aux bassines, à ces rétentions d'eau pour alimenter l'agriculture lorsque l'on n'a pas d'eau. Ça peut être une solution dans certains territoires. Ça n'est pas une solution pour d'autres territoires. Ça dépend des nappes phréatiques. Est-ce qu'elles sont en surface? Est-ce qu'elles sont profondes? Est-ce qu'elles sont chargées? Est-ce qu'elles ne sont pas chargées? Donc là, je dirais que la déclinaison des solutions est vraiment territoriale. Et sur le cycle de l'eau, on va devoir faire face à la fois à trop d'eau et à la fois à pas assez d'eau. Donc là, il y a vraiment un éventail d'adaptations à mettre en œuvre.
Et justement, à vous écouter, à écouter Françoise Vimeux, Jean-François Vigier, on voit que c'est une histoire de concertation locale et que du coup, là, vous êtes forcément en première ligne. Comment on fait justement quand on est maire pour organiser, en tout cas participer à l'organisation de concertations sur des questions aussi sensibles que celles-là?
Alors, il y a la question générale et il y a les questions particulières. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je m'étais engagé, moi, à organiser des assises de la transition écologique sur ma ville après le scrutin municipal de 2020. Celles-ci se sont déroulées à l'automne 2021. Après avoir fait énormément de communication, avoir distribué des documents dans toutes les boîtes aux lettres, les réseaux sociaux, le site internet, bref. Et j'ai été finalement assez déçu, puisque on s'est retrouvé, je dirais, entre sachants et personnes concernées. Mais L'objectif qui était de faire venir les habitants, ceux qui n'ont pas d'idées préconçues sur la question, ben, là, je trouve, on a été un peu en situation d'échec. Et du coup, faire la trame d'une politique publique sur 5 ou 6 ans, alors que une grande partie des habitants qu'on voulait toucher ne sont pas venus participer à ces travaux, c'est un peu embêtant. Après, on sait sans surprise qu'on a de toute façon des travaux d'urgence à réaliser, la rénovation énergétique des bâtiments, l'éclairage public, la biodiversité en ville, les mobilités douces, l'alimentation, l'énergie, bref. C'est là-dessus qu'on travaille et évidemment que chaque fois qu'on a un projet qui concerne un quartier, qui concerne un secteur de la commune, eh bien, on travaille, on avance avec les habitants. Mais encore une fois, ce n'est pas toujours facile. Je vais vous prendre un autre exemple. On ne peut pas évidemment rénover tous nos groupes scolaires en même temps. J'ai expliqué pourquoi il y a quelques minutes. Il y a des classes aujourd'hui dans lesquelles il fait très chaud. Les parents d'élèves nous demandent de mettre des climatiseurs dans les salles de classe. Et je suis obligé de répondre que je ne peux pas répondre à un problème par une solution qui dégrade le bilan carbone de la commune. Donc en fait, il faut expliquer tout ça, il faut faire preuve de pédagogie, être dans la discussion, mais c'est vrai que souvent la transition écologique et énergétique se heurte à la vie quotidienne des concitoyens, et notre discours, il n'est pas toujours facile à tenir, même si on tient la ligne générale.
Bonjour Bénédicte.
Oui, bonjour. Voilà, écoutez, moi je suis sur une commune littorale du Nord Finistère, dont les sites remarquables attirent de plus en plus de personnes, mais aussi des gens qui viennent s'installer ici pour le bonheur de l'accès à la nature et qui édifient des murs, goudronnent leur jardin. Alors que, bien sûr, les haies changent complètement l'atmosphère, la joie aussi de les voir vibrer lorsqu'il pleut, lorsqu'il y a du vent, les oiseaux qui viennent s'y nicher, qui chantent, voilà. Et à l'heure actuelle, on a un environnement qui est en perdition par rapport à ce qu'il était. Voilà, on a 3/4 des gens au moins qui édifient des murs au lieu de planter des haies. Et le résultat, c'est que les gens s'enferment chez eux alors qu'ils sont à proximité de lieux extraordinaires où là, on est bien obligé de se rencontrer.
Eh ben merci beaucoup, voilà. Bénédicte, pour votre appel au 04 72 38 20 23. Françoise Vimeux, peut-être une réaction sur ce que vous venez d'entendre. J'entends la volonté de la part de Bénédicte d'arrêter de construire des murs, mais plutôt des haies.
Oui, alors là, c'est un problème d'urbanisation qui est un peu... l'urbanisation a bien sûr un rôle qui peut être néfaste par rapport aux problèmes que l'on va rencontrer d'un point de vue climatique. Mais là, il y a plus un problème de modification du paysage. Donc là, ça n'a pas grand-chose à voir avec le climat. Mais par contre, cette intervention, elle me fait penser au fait que on a de nombreux territoires en France sur nos côtes qui sont affectés par exemple par l'érosion côtière. C'est un phénomène naturel qui est aggravé par l'élévation graduelle du niveau de la mer. Et on se rend compte que tous ces territoires ne sont pas forcément couverts aujourd'hui par un plan de prévention des risques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'urbanisation peut continuer un petit peu comme elle veut. Et ça, c'est un vrai problème parce qu'on sait qu'on a des territoires qui vont être touchés par l'érosion côtière. On a déjà 60 communes en France où l'érosion est supérieure à 1,50 m par an. On sait qu'il y a des territoires qui sont inondables et qui vont l'être encore davantage, par exemple lors de tempêtes à cause des submersions marines. ou qui vont l'être de manière chronique à marée haute ou pendant les grandes marées. Et on a aussi des territoires qui vont devenir inondables, hein, des territoires côtiers. Et on a vu, par exemple, là, dans le nord de la France, dans le Pas-de-Calais, ce qui s'est passé avec ces pluies torrentielles et ces écoulements d'eau vers la mer qui ont été rendus difficiles à marée haute. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que il y a vraiment aussi toute une adaptation à penser pour nos côtes, en particulier sur les côtes atlantiques.
On arrive au terme de cette émission. Malheureusement, on n'a pas le temps de faire un tour de table de conclusion, mais je pense, Jean-François Vigier, si je dis que, à travers tout ce que vous nous avez dit, il y a moi j'ai entendu en tout cas une forte invitation aux citoyens, citoyennes de votre commune, mais plus globalement des communes de France, de s'intéresser à ces questions, de venir quand vous organisez des concertations comme vous l'avez fait, et de participer finalement à la construction de l'avenir commun. Et évidemment, on va continuer, Melchior, à parler de toutes ces questions.
On l'a pas fini.
Sur cette antenne tous les mardis et puis à d'autres moments aussi. Merci en tout cas Françoise Vimeux, Jean-François Vigier d'être venu nous aider à réfléchir ce matin.
Et merci à l'équipe de Radio Notre-Dame qui vous accueillait ce matin en studio. Françoise Vimeux, merci Anne Kerléau. La semaine prochaine vous serez toute seule, vous allez y arriver.
Ça devrait aller.
J'espère. Merci à vous. Et dans un instant on va continuer, on va faire un petit pas de côté, on va parler du jardinage pour les écoles avec vos appels toujours au 04 72 38 20 23. Tout de suite.